d'amour. Voilà, il va parler à son peuple comme à un époux qui parle à son épouse. Vous vous souvenez de cette thématique de l'époux et de l'épouse. C'est un thème qui va revenir beaucoup chez les prophètes. Et ce thème, on va le retrouver chez Jérémie. Encore, on va franchir une étape au niveau spirituel sur la question de la fidélité de Dieu et la question du cœur. Voilà, la place du cœur. Alors, il faut resituer, comme on l'a fait déjà pour Élie et Osée, il faut resituer le contexte historique. Chez Jérémie, ce contexte historique va prendre encore plus d'importance parce qu'on est à un moment de l'histoire d'Israël qui est très très intense, je vais vous en parler tout à l'heure, et Jérémie va réagir par rapport à cette situation en essayant de montrer quelle espérance peut naître dans ce contexte très compliqué. Donc, je vais d'abord présenter Jérémie et son livre. C'est important d'avoir ce contexte historique et de situer le personnage. Ensuite, nous parlerons de l'activité du prophète, parce que, vous allez voir, on peut dire que Jérémie est vraiment la figure du prophète par excellence. Enfin, de tous les prophètes, c'est sûrement celui qui a insisté le plus sur la question de la prédication, de l'écoute de la parole et le drame que représente le refus de la parole. Voilà. Et enfin, troisième partie, l'oracle de la Nouvelle Alliance, qui en fait, le 2 et le 3, c'est les deux volets d'une même lecture du livre de Jérémie. Il y a une continuité. Alors d'abord, Jérémie et son livre. Comme pour tous les prophètes de l'Ancien Testament, on a très peu d'informations sur la vie de Jérémie. Je vous l'avais dit déjà, on attend des informations historiques. Il y en a, mais elles ne sont pas très nombreuses. On peut cependant repérer quelques éléments biographiques dans la vie de Jérémie. Alors j'en retiens quelques-uns qui seront importants pour nous et qui permettent de bien situer la parole du prophète, parce qu'encore une fois, la parole des prophètes est toujours située dans une histoire. C'est jamais une parole déconnectée de l'histoire. Jérémie apparaît dans le troisième quart du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a même des exégètes qui datent très précisément, je crois, en 627, voilà, si vous voulez. Je n'ai pas trop les raisons pour lesquelles c'est cette date-là. En tout cas, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que je vous avais parlé du royaume du Nord et du royaume du Sud, la rupture entre le Nord et le Sud à la fin du règne de Salomon, le schisme de Sichem. Le royaume du Nord a suivi sa voie qui n'était pas très bonne, avec des rois qui, pour la plupart, étaient des rois impies. On en a parlé avec Élie et un siècle plus tard avec Osée. La parole des prophètes n'a pas produit son effet. Il y a eu beaucoup de bêtises au niveau politique faites par le royaume du Nord, en lien avec Damas, en lien avec... puis il y a eu l'invasion des Assyriens, et le royaume du Nord tombe en l'an 722. Ça fait partie des dates importantes à connaître. 722, fin du royaume du Nord, déportation des habitants qu'on appelle les Israélites, le terme d'Israël qui est appliqué au royaume du Nord. On parle aussi du royaume de Samarie, la ville de Samarie. Donc, c'est l'époque, justement, où la région de la Samarie va être peuplés par des païens qui vont occuper les campagnes, d'où dans l'Évangile, on voit comment les Samaritains sont vus comme des gens un peu hétérodoxes ou hérétiques, puisque c'était un mélange de judaïsme, enfin de religion d'Israël, religion des patriarches, avec la religion païenne. Bref, on ne parle plus du royaume de Samarie, du royaume du Nord. Les rescapés, ceux qui échappent à la déportation, affluent à Jérusalem. Comme vous serez, je pense, pour la plupart en Terre Sainte cet été, je vous montrerai comment, et on voit très très bien, il y a des plans qui montrent ça, on repère bien la ville, comment la ville de Jérusalem s'est développée à l'occasion de l'arrivée des rescapés du nord après 722. Là, on arrive, donc c'est pour Jérusalem une période d'un certain développement, Et on arrive donc à l'époque où Jérémie va prophétiser. C'est autour de Jérusalem que va se concentrer la vie politique et religieuse du peuple d'Israël. D'autant plus que cette période, après la chute du royaume du Nord, après 722, il y a un roi qui s'appelle Ézéchias à Jérusalem qui va faire une réforme, dont je vais vous dire un mot tout de suite, une réforme religieuse qui va redonner au temple toute son importance. Donc l'importance du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem. Jérémie est originaire d'Anatote, une petite ville située à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, mais le détail est important parce que Anatote, tout en étant dans le territoire de Benjamin, donc c'est le royaume du sud, hein, ils ont échappé à la déportation, il n'empêche que Jérémie est tourné vers le nord. Alors ça, j'en dirai pas plus tout à l'heure, mais il y a pas mal de liens entre Jérémie et le royaume du nord. Il a prêché pour les habitants du nord d'Israël. Mais aussi, Anatote, c'est pas loin de Jérusalem, et Jérémie grandit dans la proximité du temple. Hein, il aura un lien particulier avec le temple. On le verra prêcher dans le temple de Jérusalem. Intervenir, poser des actes prophétiques au temple de Jérusalem. Vous savez, quand Jésus chasse les vendeurs du temple, ça vous dit quelque chose? À chaque fois, on dit c'est la colère de Jésus. C'est pas du tout une colère de Jésus, mais Jésus n'est pas du tout en colère. En revanche, il reprend un acte prophétique du même type que ceux que Jérémie va faire au temple, hein, pour appeler à la purification du temple. Vous voyez comment c'est important de lire les prophètes pour voir comment, dans l'Évangile, ça va éclairer ce que Jésus fait. Hein. Jésus pense à Jérémie et les gens qui sont là pensent à Jérémie quand Jésus fait ce geste au temple. Jérémie a un lien particulier avec le temple. Un autre détail qui est important, c'est qu'il est célibataire, ce qui est assez rare pour chez les prophètes et de façon habituelle en Israël. Hein, parce qu'on est censé se marier, il y a la bénédiction originelle du livre de la Genèse. Et lui est célibataire, alors ça va renforcer ce caractère solitaire de sa carrière prophétique et donc aussi le caractère dramatique. Hein, il est un peu seul face à des gens qui lui en veulent, on va le mettre en prison, hein, on retient de Jérémie qu'il y a quelque chose déjà de l'annonce du serviteur souffrant et l'annonce du Christ. Hein. Voilà, donc j'anticipe un peu, mais il faut voir chez Jérémie cette intensité de la figure prophétique et d'un homme qui est célibataire, qui est seul. Voilà, seul et en même temps avec le peuple. Alors, un point important, c'est qu'on l'associe à ce qu'on appelle la réforme de Josias. J'ai mis en gras et avec des guillemets pour bien souligner, parce que c'est un point très important de l'histoire biblique. Hein, si vous vous intéressez à la Bible, et manifestement c'est le cas, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la Bible, eh bien il faut connaître la réforme de Josias. C'était un des événements très très importants dans la révélation biblique. Alors on a peu d'écho de la réforme de Josias dans le livre de Jérémie. Hein, vous avez au chapitre 11, je vous ai mis les références. Mais on retrouve la même, j'allais dire, la spiritualité ou l'intention spirituelle, théologique, hein, de la réforme de Josias. Jérémie est parfaitement en consonance avec cette réforme de Josias. Que s'est-il passé? En 622, hein, donc on est un siècle après la chute du royaume du Nord, tout se passe à Jérusalem. On est en 622, il y a un roi qui s'appelle Josias, et stupeur, hein, un événement, on a retrouvé dans le temple le livre de la loi de Moïse. On l'a complètement oublié. Oui, c'est une manière assez astucieuse de dire, en fait, plus personne ne pratiquait la loi. Quand même un peu gênant quand on sait que la charte, le fondement du peuple d'Israël, c'est la loi de Moïse. C'est une manière assez caustique, ironique, violente de dire, vous voyez, vous avez complètement oublié la loi. Voilà, on redécouvre la loi. Alors, on arrive, on informe le roi veut être informé de cette affaire, on va faire la lecture de la loi, tout le monde se met à pleurer, et le roi Josias dit, eh ben, puisque c'est comme ça, on va faire ce que le Seigneur demande, on va pratiquer la loi. Ah ouais, on va pratiquer la loi, on est tous d'accord. Et on y va tous, eh ben on y va tous. Hein. Alors, on va considérer que Josias est vraiment un roi juste, Là, vous avez un terme très important, juste, hein, de tzadik en hébreu. Il y a de la place ici, hein, Catherine. Non ? Ouais. Et donc, un roi juste, parce que juste dans la Bible, ça veut dire fidèle à la loi de Moïse. Hein, c'est un terme qu'on va retrouver dans toutes les Écritures jusqu'à l'Évangile. Quand on vous dit Joseph était un homme juste, ça vous dit quelque chose, hein, le récit de l'Annonciation, Joseph était juste, ça veut dire il était obéissant à la loi de Moïse. Hein, c'est un terme quasiment technique. Hein, et pour un juif, encore aujourd'hui, la sainteté, un juste, c'est un homme saint, c'est un juste, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur. Voilà. Josias est un homme qui se montre juste, hein, à la différence de ses prédécesseurs. À la différence de ses prédécesseurs. Hein, les rois de Juda ne sont pas beaucoup plus brillants que les rois d'Israël. Un petit peu plus, il y a eu un peu plus d'exceptions. Alors une grande exception dans les prédécesseurs de Josias, c'est Ézéchias, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, Ézéchias, d'ailleurs, qui est lié à la prophétie d'Isaïe 7. Hein, la jeune femme donne naissance à un fils. Jeune femme dont on va voir qu'en fait la Vierge donne naissance à un fils. Pour les Juifs, en fait, ce fils c'est Ézéchias, hein, le roi inattendu qui va relancer la dynastie davidique. Une petite parenthèse. Ézéchias est un personnage aussi qui est assez important, qui a bénéficié des faveurs du Seigneur. C'était un homme juste. Il a fait quelques erreurs à la fin de son règne, mais c'est aussi un modèle. Hein, c'est un homme d'une vision plutôt positive, et Ézéchias avait fait une réforme déjà, une première réforme au temple de Jérusalem. Hein, il avait supprimé les symboles païens, il avait revalorisé le culte au temple. La réforme était restée un peu inaboutie. Eh bien, Josias va reprendre, hein, dans la lignée d'Ézéchias, cette réforme religieuse autour du temple de Jérusalem, mais avec une insistance sur la conversion du cœur, sur le fait d'obéir à la loi. Hein. C'est vraiment, on peut dire, la réforme de Josias, c'est la religion du cœur. Hein. C'est-à-dire, de tout notre cœur, nous allons essayer d'obéir à ce que demande le Seigneur. Hein. C'est dans la droite ligne du prophète Osée. Hein. Vous vous souvenez, Osée, on l'a vu la dernière fois. Hein. Je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Il ne suffit pas de faire des sacrifices, il ne suffit pas d'obéir formellement à la loi. Ce que Dieu veut, c'est atteindre le cœur. Ça, c'est une grande thématique biblique. Toute la thématique qu'on va voir, par exemple, dans le livre de l'Exode, hein, il ne suffit pas d'avoir été libéré d'Égypte, tout le travail reste à faire. Il faut que le cœur se laisse toucher par le Seigneur et écoute le Seigneur. C'est pour ça qu'à la fin du livre de l'Exode, on va reprendre la loi, on va relire toute la loi, mais cette fois-ci en insistant sur l'écoute du cœur. Et cette deuxième loi, cette deuxième lecture, en grec, ça se dit, et vous allez tout de suite trouver la réponse, deutéronomos, le deutéronome. En fait, le deutéronome, c'est la deuxième loi, c'est Moïse arrivant au bout de l'itinéraire de l'Exode. Le peuple d'Israël s'est laissé façonner par le Seigneur, et cette fois-ci, il dit maintenant, écoute Israël, les lois que le Seigneur va te donner. Hein. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, Israël était incapable de le comprendre une fois quand il est sorti d'Égypte. Ah, on veut revenir en Égypte. Dieu va faire ce cheminement à Israël de était tellement habitué à son esclavage. Hein, les Israélites, depuis 430 ans qu'ils étaient esclaves, l'esclavage était rentré dans leur âme, hein, comme de la crasse dans un vieux manteau. Hein. Le temps de faire le nettoyage, eh ben, il faut mettre beaucoup de soude, hein, et faire bouillir très 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 fort. Hein. Il a fallu 40 ans au désert pour nettoyer à la soude, pour retirer l'esprit d'esclavage. Israël qui dit au Seigneur, on veut revenir en Égypte. Ça montre à quel point le drame, et on voit le Seigneur avec Moïse, qui est dramatique, voilà. Et bien on a 40 ans d'épreuve, et le livre du Deutéronome commence en disant « Je t'ai éprouvé au désert pour voir si tu allais obéir au Seigneur. » Et là maintenant tu es au seuil de la terre promise. Alors Moïse va reprendre toute la loi, voilà, dans l'esprit deutéronomique de la réforme de Josias, donc c'est l'époque où il y aura le Deutéronome qui va être écrit, on va reprendre comme un itinéraire spirituel, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand, parenthèse, quand des chrétiens disent, et j'espère bien que vous n'en êtes pas, « Ah, le judaïsme, c'est la religion de la loi extérieure, et nous, les chrétiens, c'est la religion du cœur », c'est faux, et c'est totalement faux. Dans le judaïsme, le cœur a beaucoup d'importance, même s'ils accordent beaucoup plus d'importance aux règles extérieures, évidemment, nous le voyons. J'ai le souvenir d'une prière de Shabbat à la grande synagogue de Jérusalem, et on nous avait prévenu, vous allez voir, le moment plus important, c'était un moment en silence, où chacun disait, je crois, le Kaddish, et c'était très émouvant. Je peux vous dire que nous, on s'associe à cette prière, peuple juif, on peut prier, on a les mêmes psaumes, les mêmes prières, et c'était la prière du cœur, c'était la prière silencieuse. Donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Et le Deutéronome compte énormément, et le schéma Israël qui est au cœur de la vie juive, c'est extrait du Deutéronome. Et c'est la réforme de Josias, c'est cette idée, nous allons obéir au Seigneur, mais de tout notre cœur. Et ça a façonné la sainteté en Israël, et Jésus a été marqué par cette spiritualité du Deutéronome. Il obéit à la loi, c'est sûr, mais on le voit bien dans l'attitude du cœur, et l'insistance de Jésus sur la conversion du cœur, elle est présente déjà chez les prophètes de l'école qu'on appelle deutéronomiste. Voilà. Donc on peut dire que le point de départ, ça a été osé, dans le prophète de l'amour, dont on a parlé la dernière fois. Eh bien, Jérémie, lui, va consacrer toute sa vie à la mise en œuvre, le déploiement de cette réforme dite deutéronomique. Voilà. Alors, Josias, évidemment, est un roi admirable, injuste, quelqu'un qui obéit au Seigneur. Malheureusement, il est tué par le roi d'Égypte, Nécao, qu'il essayait de stopper dans sa course vers Carchémish. Carchémish, en fait, il y a eu pas mal de batailles à Carchémish, c'était au nord d'Israël. Et vous avez les Égyptiens qui volent au secours des Assyriens, c'est l'époque où l'Empire assyrien est en train de disparaître. C'est les Chaldéens qui vont remplacer les Assyriens. Et le pauvre Josias, qui est à Megiddo, là aussi cet été, vous verrez, on ira à Megiddo, on verra Megiddo. Et le pauvre Josias, alors j'ai des références qui sont ce qu'elles sont, vous m'en voudrez pas, mais moi c'est comme, je comprends beaucoup à partir des bandes dessinées. Il y a une scène que j'aime bien, on voit un moment, il y a, je crois, Astérix chez les Bretons, et on voit les Gaulois qui courent comme ça. Et il y a le Romain qui essaye de les arrêter. Vous ne passerez, en fait, il n'y a pas le temps de dire vous passerez pas, poum ! Il essaye de s'interposer, mais il se fait complètement éjecter, puis eux, ils continuent à courir. Voilà, ça vous dit quelque chose à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément lu la Bible, Astérix en général, ça, tout le monde connaît. Donc c'est bien. Voilà. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec le pauvre Josias. Vous ne passerez pas. Alors, en fait, c'est plus subtil que ça. Nécao arrive avec ses armées égyptiennes. Vous imaginez, armée égyptienne très importante par rapport au petit roi Telé de Juda, qui ne pèse pas grand-chose. Et Pharaon dit, attention, je suis Pharaon, on est les Égyptiens. T'es sûr que tu veux t'interposer? Ouais, tu passeras pas. Bon, bah, écoute, je t'aurais prévenu. Voilà. Et il meurt. Ça va être le début de la réflexion sur le juste transpercé. Vous savez qu'on va retrouver avec ils se lamenteront sur celui qu'ils ont transpercé ou le serviteur souffrant d'Isaïe à cause de nos fautes il a été transpercé, etc. Voilà. Donc c'est Josias qui est cette figure du saint. Comment se fait-il que un homme qui est juste, qui obéit à la loi, normalement obéir à la loi, c'est ce qu'on appelle la théologie de la rétribution, on obéit à la loi, on est béni, on a la bénédiction, ça c'est la théologie traditionnelle. Et pour la première fois, quelqu'un, il obéit à la loi et il meurt de façon incompréhensible. Voilà. Donc ça, ça ouvre une autre porte, mais il faut comprendre que c'est tout ce moment. La question du cœur dont je vous ai parlé, le cœur transpercé de Josias, c'est aussi le cœur transpercé de Josias. Voilà, ça va être un choc très profond. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, Jérémie va être confronté. Alors, il a déjà commencé son ministère, il va être confronté à d'autres malheurs qui vont se succéder tout au long de sa carrière. Des malheurs, on parle des malheurs de Jérémie, mais il y a eu les malheurs de Judas, de Israël. Enfin, le royaume du Nord a disparu, mais ça va être une période particulièrement mouvementée et très grave, qui va se terminer par la déportation. Et donc, il y a voilà ce contexte d'une réforme qui est en route, alors qui continuera ce qu'on appelle l'école deutéronomique. Elle va se déployer même pendant la période de l'exil. On va relire l'exil avec cette thématique du péché et de la nécessité du retour à Dieu. Voilà. Donc, il continue tout au long de sa carrière sous le règne de Joachim, qui est successeur de Josias sur le trône de Juda, 609-598. Puis, 598, c'est l'invasion des Chaldéens. Ce qu'on appelle les Chaldéens, c'est les Babyloniens, c'est Nabucodonosor, qui prennent Jérusalem en 598. Et la date définitive de cette invasion, c'est finale plutôt, c'est 587, où là, cette fois-ci, c'est toute la population qui va être déportée, la déportation à Babylone. 598, il n'y a que les élites qui partent à Babylone. On aura Ézéchiel qui fera partie de ceux qui quittent Jérusalem. C'est l'époque d'Ézéchiel également. Un petit peu plus tardif que Jérémie, mais on le retrouve à cette époque-là. Voilà. Jérémie, qui s'est toujours opposé à l'alliance entre Juda et l'Égypte, qui n'a pas été écoutée, eh bien, quand Jérusalem va être prise, va être emmené en Égypte, évidemment, comme malgré lui, et c'est là qu'il meurt. Voilà. Alors, deux mots sur le livre. Le livre, mis sous son nom, a connu une histoire assez complexe. Traduction en grec, on parlait avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, la question de traduction. Donc, il y a eu la traduction, ce qu'on appelle la Septante, à Alexandrie, qui a modifié l'ordre du livre de Jérémie. Donc, vous verrez, selon les Bibles, il y a des ordres un peu différents. Donc, on ne va pas suivre le livre chapitre par chapitre, on va simplement reprendre les interventions principales de Jérémie, ou les plus caractéristiques vis-à-vis du roi de Juda, pour comprendre son rôle prophétique. Voilà, vous savez qu'il y a deux autres livres qui sont placés sous son autorité. Il y a le livre des Lamentations, qu'on lit le Vendredi Saint. Comment elle est tombée la ville, voilà, regardez, ô vous qui passez sur ce chemin, regardez s'il est une douleur semblable à la mienne. C'est un très très beau texte. Voilà. Et puis un autre livre, le livre de Baruch, d'un style très différent. Et Baruch, c'est le secrétaire de Jérémie. Je vais peut-être l'évoquer tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, des livres d'horizon assez différents. Alors, l'activité du prophète. D'abord, face à l'invasion des Chaldéens. Donc là, je vais parler surtout du contexte politique et de la manière dont Jérémie va intervenir. Face à la menace d'invasion des Chaldéens, il y a plusieurs attitudes. Comme toujours, quand il y a des envahisseurs, quand un pays va se faire envahir, quand on sait qu'on va vers une guerre, évidemment, il y a ceux qui s'organisent déjà pour traiter avec l'ennemi, il y a ceux qui disent qu'il faut résister jusqu'au bout, il y a ceux qui disent on va se soumettre mais on va organiser la résistance. Enfin, voilà, toute analogie avec des situations qu'on a connues. Voilà, il y a des constantes dans l'histoire et c'est bien normal. Là, l'attitude générale, qui est celle du roi de Juda, Joachim, c'est de résister à Babylone en s'appuyant sur l'Égypte. Leur idée, c'est de dire, on a là avec nous le temple du Seigneur, notre Dieu a toujours pris soin de son peuple, il prendra soin de nous, comme il a déjà pris soin de nos prédécesseurs, et donc, nous sommes assez forts pour résister. Et puis, nous avons derrière nous l'Égypte qui nous servira d'appui. Or, l'Égypte est dans une période qui est très compliquée pour elle aussi, et c'est un appui qui est tout à fait incertain. Les habitants de de Jérusalem, hein, sont un peu dans cette illusion que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est arrivé dans le passé, pardon, ça arrivera pour eux. Hein, l'époque d'Ézéchias, par exemple, il y a eu l'invasion des Assyriens. Ils ont pris les principales villes de Juda. Ils ont pris Sichem, la grosse ville dont on a Lachish. Voilà, la prise de Lachish, c'était un gros choc parce que Lachish est une grosse forteresse. Hein, la prise de Lachish, et ils arrivent devant Jérusalem, et là, ils repartent bredouille sans avoir pu prendre Jérusalem. Hein, c'est là qu'on voit Isaïe intervenir. Hein, elle te raille, elle te méprise, la fille de Sion, sais-tu à qui tu t'es adressé? Hein, voilà. Et le lendemain, les Assyriens repartent bredouille. Donc ça a beaucoup marqué les habitants de Jérusalem. Ils se disent, ça a fonctionné, ça fonctionnera. Hein. Et puis ils se disent, de toute façon, on a le temple avec nous. Voilà. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Jérémie, et c'est ce que je vais développer tout à l'heure, va dire en fait, c'est une fausse sécurité de faire des calculs politiques incertains et de se dire l'aide du Seigneur est automatique. Votre seule sécurité, c'est d'obéir à la loi du Seigneur. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas obéi. Vous êtes donc fragile intérieurement, avec des alliances incertaines. Et le mieux, c'est de laisser ce qui doit arriver, c'est-à-dire laisser Babylone envahir notre pays, et ce sera le temps d'un renouveau spirituel. Et il rappelle que le temple n'est pas une sécurité absolue, il sera détruit, comme a été détruit le temple de Silo. Souvenez-vous, à Silo, il y avait l'arche d'alliance à Silo, il y avait la guerre contre les Philistins. Les Israélites ont dit, on a l'arche avec nous, puisqu'on se fait battre, on va prendre l'arche. Tac, 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 on arrive avec l'arche devant les Philistins. Hein, c'est le Seigneur, il va repousser les ennemis parce qu'on a l'arche. Et le Seigneur, il dit, mais on ne se moque pas de moi comme ça. Hein, vous vous souvenez que les Israélites s'étaient fait battre et que l'arche a été prise par les Philistins. Ensuite, il y a eu plein de problèmes chez les Philistins, parce que c'est même des textes assez comiques, hein, l'histoire de la statue de Dagan qui tombe, ils ont des pustules, ils ont plein de problèmes, ils disent, on renvoie l'arche d'alliance en Israël, hein, c'est un des textes les plus, c'est assez comique, ils se moquent d'Israël, mais ils se moquent aussi des Philistins, et à la fin, l'arche se retrouve tout seul, plus personne ne veut y toucher, parce qu'on ne met pas la main sur le Seigneur. Voilà. Et Jérémie va rappeler ça au peuple. Il dit, attention, vous avez voulu utiliser l'arche d'alliance et utiliser le Seigneur en disant, on a notre gris-gris, on a la victoire. Là, vous dites, on a le temple de Jérusalem, c'est bon, on est protégé. Pas comme ça que ça va se passer. Le temple peut très bien être détruit. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Alors ça, évidemment, l'intervention de Jérémie, hein, quand on voit la menace qui arrive, on est en 609, 608, c'est le début du règne de Joachim, c'est un événement qui est tout à fait bien daté, eh bien, les prêtres du temple vont être très mécontents, ainsi que les prophètes, je vous ai dit qu'il y avait les prophètes professionnels, et ils décident de faire périr Jérémie. Hein, il y échappe de peu, hein, il en est question au chapitre 7, au chapitre 26, hein, c'est un des premières crises qu'il va connaître, et Jérémie, qu'on connaît comme une figure de prophète persécuté, eh bien, voilà, il a parlé, il a tenu bon, et on ne l'a pas écouté. Quelques années après ce premier événement, hein, d'autres événements politiques vont confirmer le bien fondé de ses choix, notamment la défaite des Égyptiens à Carchémish en 605. Voilà. Alors, il faut lire le chapitre 46, hein, où Jérémie, on voit comment... comme un bon prophète, il avait vu hein, ce qui allait se passer et la justesse de sa position. Alors il va intervenir auprès de Joachim, qui demeure toujours acquis à la cause des Égyptiens. Il essaye d'infléchir la politique du roi dans le bon sens. Et il va dicter à Baruch, son secrétaire, et tout le thème de la parole, le thème de l'écrit, très important chez Jérémie. Il faut bien comprendre ça, le thème de la parole, je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc il dicte à Baruch des paroles, des prophéties qu'il lui demande d'aller lire au temple, lui-même ne pouvant pas s'y rendre. Baruch va au temple, très bien. On s'assoit pour écouter la lecture de ce que dit Baruch de la part de Jérémie. Et à chaque fois que Baruch a terminé une page, eh bien, le roi prend le rouleau qui vient d'être lu, il le lacère et il le jette dans un brasero. Voilà. Et toutes les paroles de Jérémie vont disparaître comme ça dans le brasero, de manière très ferme de dire qu'on ne veut pas l'écouter. Que fait Jérémie quand Baruch revient le voir? Eh bien, il réécrit. Et il en rajoute même. Et il en rajoute même. On ne peut pas réduire la vérité au silence. La parole que Jérémie annonce n'est pas facile, elle n'est pas facile à entendre, elle n'est pas heureuse non plus, parce que il y a une perspective de malheur, même si au terme c'est une perspective de salut, mais il faut faire la vérité. Tout ça, je vais le développer maintenant. On ne peut pas taire la vérité, surtout dans un contexte politique aussi grave. Quand on est face à une invasion, quand un pays est face à un effondrement, on ne peut plus, on ne peut pas d'habitude, mais on peut encore moins dire des mensonges ou ne pas écouter la vérité. Avec Jérémie, quand on fait taire Jérémie, l'écrit prend le relais. Voilà. Et si l'écrit est détruit, eh bien, Jérémie parle de nouveau. Alors, arrêtons-nous justement sur la mission du prophète. Là, je vais prendre un peu de recul et d'un point de vue davantage théologique. Que nous dit Jérémie par rapport à sa mission? Que nous dit le livre de Jérémie par rapport à la mission du prophète? Voilà, on a deux aspects très importants qui sont au cœur de la mission du prophète. Tout d'abord, le contenu de ce que dit Jérémie, le contenu de sa parole, et ensuite, la manière dont la parole est transmise. La manière dont la parole va être accueillie. Tout d'abord, le contenu. Le contenu des paroles de Jérémie, c'est vrai qu'on fait de lui un pessimiste. Un prophète de malheur. Je ne vous ai pas posé la question, mais pour vous, Jérémie, ça évoque quoi? Jérémiade. Voilà, les Jérémiades. Quand j'ai la première fois que je suis allé en Terre Sainte, en 88, à Montmartre, on était dans des équipes. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, je connaissais, je crois, à peu près rien dans la Bible. Enfin, voilà, ma culture était vraiment zéro. Et il y avait dans l'équipe, on était en équipe. Voilà, chacun avait son équipe. Voilà, un autre chef d'équipe qui est ici, un troisième chef d'équipe du côté des garçons. Il y avait deux équipes de filles. Et le séminariste, on dit, on va prendre Jérémie. Moi, je ne me disais pas grand-chose. Et j'étais pas très content du choix parce que assez rapidement, du côté des prêtres et de ceux qui connaissaient, ah, Jérémie, les Jérémiades, les pleurs, les machins, oh, oh, oh. Alors peut-être que lui, il avait pris le choix parce qu'il savait que c'était très très beau, mais après coup, j'ai dit, j'aurais bien pris un autre nom. Voilà. Donc, voilà. Et de fait, Jérémie véhicule cette image prophète de malheur qui se lamente, qui se lamente et qui dénonce, il dénonce et il se lamente. En réalité, Jérémie est là pour annoncer le salut. Bien sûr, tous les prophètes d'Israël sont là pour annoncer le salut. Dieu l'a établi pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, mais aussi pour bâtir et planter. Ça, c'est dans le récit de sa vocation. Il y a quatre verbes négatifs, arracher, renverser, exterminer, démolir, mais les deux verbes positifs viennent à la fin. Donc il y a bien une parole qui va être rude. Il faudra arracher le mensonge, il faudra démolir l'orgueil, mais le but, c'est de bâtir et planter. C'est de planter une espérance. Voilà. Donc, Jérémie annonce l'espérance du salut, mais il n'y aura pas de salut s'il n'y a pas la vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, le contenu. Le contenu, c'est qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas la vérité. Or, le peuple vit dans le mensonge. Le peuple est le roi. Il y a un passage très important que j'ai évoqué déjà tout à l'heure au chapitre 7, où Jérémie dénonce ce mensonge avec cette phrase très impressionnante. Il n'y a plus de vérité. La vérité a péri. Traduction de Paul Beauchamp. La vérité a péri. Terrible. Le mot mensonge revient très souvent dans la bouche de Jérémie et sous sa plume. Et Jérémie s'en prend particulièrement aux faux prophètes. Ça, c'est une vraie question qui apparaît beaucoup avec Jérémie. C'est d'ailleurs une question que nous nous posons nous-mêmes. Qu'est-ce qui permet de s'assurer que le prophète dit vrai, hein? Alors, ce qui permet de savoir qu'il dit vrai, c'est que ses paroles vont se réaliser, quelquefois pas tout de suite. Mais en tout cas, Jérémie dégage un peu le terrain en dénonçant les faux prophètes. Des faux prophètes, ce sont ceux qui disent des paroles rassurantes, agréables à écouter. Des paroles bien inspirées, des paroles épanouissantes, mais qui maintiennent dans le mensonge. Avec cette formule incroyable, j'ai au chapitre 6 qui fait corps avec le chapitre 7. Hein. Partout on dit paix, paix, mais il n'y a point de paix. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Des gens qui vous disent des choses agréables. Flattez-moi. Vous êtes beau. C'est pas de la flatterie, c'est de la vérité. Hein, c'est pas une bande dessinée là. Ça va, vous avez de la culture ? C'est bon. Voilà. Voilà. Mais c'est un petit peu ça. Hein. Flattez-moi. Que vous êtes beau. Voilà. Partout on dit paix, paix, mais il n'y a point de paix. Hein, c'est un mensonge de parler de paix quand le cœur de l'homme est infidèle et loin de Dieu. Alors, on est vraiment dans le thème du cœur dont on parlait tout à l'heure. Hein. Jérémie annonce une parole de vérité, il n'y aura pas de paix tant que l'homme n'obéira pas à Dieu. Voilà. Voilà le contenu. Mais on se rend compte que si il s'agit que la vérité atteigne le cœur, il faut que la parole soit entendue. Et donc, qu'il y a un deuxième thème qui est aussi important, sinon plus important encore que le contenu, c'est l'appel à l'écoute. Vous voyez ? C'est pas uniquement, il y a un message que Jérémie veut faire passer, qui est le message de vérité. La première chose, le premier rôle du prophète, c'est d'obtenir que le cœur s'ouvre, que les oreilles s'ouvrent. D'ailleurs, pour Israël, la prière centrale d'Israël, c'est « Écoute Israël ». L'appel schéma Israël. Hein. L'appel à l'écoute, hein, l'appel à l'écoute a autant, sinon plus d'importance que le contenu lui-même de la parole. Et Jérémie est le prophète, on peut dire, dont toute la mission a été d'être là pour appeler Israël à l'écoute. Il a souffert pour ça. Sachant que le mot écoute, en hébreu, schéma, ça vous dit quelque chose à tous, schéma Israël. Hein, ça nous dit quelque chose. Si vous voyez un juif au bord de la mort, comme ça, si le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, au moment de la mort, ça m'avait marqué, j'avais appris ça. Et Genevoix raconte ça, je crois, dans son. Je crois qu'on a ça chez Genevoix. Hein, il parle pendant la guerre de 14, un juif qui est en train de mourir et il y a un chrétien qui arrive et qui lui dit la prière, comme ça, des juifs. Voilà, hein, c'est très, très. C'est une prière que nous faisons nous-mêmes, d'ailleurs. Hein. Jésus l'a reprise et on le dit le samedi soir, accompli. Hein. Schéma Israël. Schéma, ça veut dire écoute, obéir autant que écouter. Hein. Quand on disait tout à l'heure avec quelques-uns qu'en hébreu, les mots, il y a un seul mot pour dire plusieurs choses, obéir, écouter. Parce que chez les Juifs, enfin dans la tradition d'Israël, on est conséquent. Si j'écoute, c'est pour mettre en pratique. C'est pas j'écoute d'une oreille et ça s'arrête là, quoi. Voilà. Donc on peut dire que Jérémie est vraiment le prophète de la parole. C'est le prophète de la parole. Toute sa vie de prophète est saisie par cette parole qu'il a à transmettre. Elle consiste à donner corps à la parole. Est-ce qu'on accueille Jérémie ? Tout ça, on le retrouvera avec Jésus. Hein, qui vous accueille, m'accueille. Si on vous rejette, c'est moi qu'on rejette. Donc l'apôtre en tant que tel, la manière dont l'apôtre est reçu, ça dit la manière dont on accueille la parole de Dieu. On retrouvera ça dans le Nouveau Testament. Le prophète lui-même devient parole, si on peut dire. Comme dit Blenkinsop, la parole autant que la parole, que la personne autant que la parole est le message. Et c'est pour ça que Jérémie va souffrir dans sa chair plus que n'importe quel autre prophète, parce qu'il vit dans sa chair le sort qui est réservé à la parole, et la parole n'est pas accueillie. Hein? Aucun prophète ne s'est autant identifié que lui à sa mission et n'a autant souffert pour la parole, sinon Moïse. Hein, et comme je vous le disais tout à l'heure, la vie de Moïse a été écrite en grande partie à l'époque de Jérémie, hein, l'époque de Théronomiste. Et on voit Moïse intercéder pour le peuple et souffrir des infidélités du peuple. Il y a un lien très étroit Alors, on n'a pas le temps de l'aborder ce soir, c'est un sujet passionnant, hein, mais qui est très éclairant. Je fais quand même la parenthèse, parce que vous avez deux prophètes qui se renvoient l'un à l'autre. Moïse, qui est le plus fondamental, c'est plus qu'un prophète. Moïse, c'est le plus grand des prophètes. Il est prophète, il est législateur, il est prêtre, il est pasteur. Voilà. Et Moïse est assez unique, d'accord. Mais c'est quand même, vous avez Moïse et Jérémie. Moïse, il va être du côté de la source, le don de la loi. Jérémie, il va être du côté du prophète qui actualise la parole. Mais vous avez la même continuité, c'est le même contenu. Il n'y a pas d'un côté la loi, de l'autre les prophètes. En fait, le prophète, il est là pour réactualiser la loi. Jérémie réactualise Moïse. Jérémie va souffrir comme Moïse a souffert, parce que la parole doit être accueillie. Quand les gens vous disent, ils opposent l'institution et le charisme, ils disent, il y a ceux qui sont du côté de la loi, puis il y a ceux qui sont du côté du prophétisme, ce n'est pas biblique de dire ça. La Bible, au contraire, les prophètes ramènent, le but, c'est de ramener à l'obéissance à la loi, en passant par le cœur. Voilà. Chez Moïse, comme chez Jérémie, on assiste à une personnification dramatique de la fonction prophétique. On voit que le prophète n'est pas uniquement un transmetteur de paroles. Sa parole, c'est toute sa personne qui va la porter. Et je vais m'arrêter sur un passage des confessions, les confessions de Jérémie. On connaît les confessions de Jérémie, ça vous avez entendu parler. C'est partie des textes les plus connus, les plus touchants. Et notamment le chapitre 20 qui a beaucoup marqué dans notre vie spirituelle. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé et tu as été le plus fort. Alors là, il faut faire très attention aux termes. Tant mieux si on a une lecture très positive. Tu m'as séduit, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu m'as séduit, waouh, un amour pour toi. En fait, ce n'est pas ça du tout que dit Jérémie. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Je me suis fait avoir. Alors je sais que j'en déçois beaucoup parce que moi j'ai un ami prêtre. Sa vocation repose sur. Il m'a dit. J'étais séminariste, il était aumônier. Et il m'avait dit, moi c'est ce passage-là et tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire par le Seigneur. Voilà. Mais vous avez quelqu'un comme Origène, par exemple, chez les pères de l'Église, Origène, un des plus grands commentateurs de la Bible de toute l'histoire. Le commentaire de Jérémie. Par Origène, il montre bien, il s'agit de voilà, tu m'as trompé. Mais tu m'as trompé parce que c'était le moyen de me faire venir à ton service, sans ça je ne serais pas venu. Mais je vous l'avais déjà dit la dernière fois, oser, je vous avais dit, je vais la séduire. Alors on dit, oh, c'est comme c'est beau, il va la séduire. Non, la séduction, c'est pas l'amour. La séduction, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Alors, quelquefois, on peut dire qu'il y a du positif dans la séduction si ça tourne bien. Mais on sait que quelquefois, ça peut mal tourner. Voilà. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant. Alors il faut bien comprendre cette plainte de Jérémie. Ce n'est pas une révolte contre Dieu. Il ne dit pas « je me suis fait avoir, j'en ai assez ». Voilà. Jérémie n'est pas Jonas. Jonas, lui, il va se révolter contre Dieu. Enfin, il va même partir, il va faire l'inverse. Alors Jérémie, pas du tout. Il sait que le Seigneur est avec lui et il le dit. Dans le même texte, « le Seigneur est avec moi comme un héros puissant ». Le Seigneur Sabaoth, c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Donc il y a une très grande confiance dans le Seigneur. Voyez ? Mais, quel est le drame ? Parce qu'il y a un drame, c'est qu'il est traversé à l'intérieur de lui-même par deux forces contraires. D'une part, l'épreuve du refus de la parole, qui prend corps en lui, il souffre de ce que le peuple refuse la parole, et en même temps, le désir irrépressible de transmettre cette parole. Cette parole, finalement, il l'aime. Même s'il sait que la tâche était trop grande pour lui, et le Seigneur l'a séduit, l'a pris, alors qu'il aurait préféré rester dans son coin. Et cependant, Il est là avec cette mission de transmettre une parole qu'il sait, une parole de vérité, une parole de vie. Et c'est pourquoi il souffre. Quelque chose de christologique déjà, hein. Quelque chose du Christ. La souffrance du Christ, c'est qu'il y a un moment, il voit que la tâche est terrible pour lui. Hein, on le voit à Gethsémani, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe. » Et cependant, hein, il sait qu'il est là pour le salut, hein, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, souffrance de Jésus broyée de l'intérieur. Hein, il y a déjà quelque chose, on peut avoir déjà une lecture christologique. Hein, on en avait parlé l'an passé, les figures du Christ. Jérémie en est une. Voilà. Hein, bien que trompé, Jérémie aime la parole qu'il a à transmettre, elle est en lui comme un feu dévorant. Hein, voilà. Mais il y a quelque chose pour lui de trop difficile à porter. Hein, une angoisse qui s'exprime dans cette plainte saisissante qui conclut ce passage des confessions. « Maudit le jour où je suis né ». C'est terrible comme parole. C'est une des paroles les pires. Enfin, les plus graves. On a l'équivalent d'ailleurs avec Moïse. Hein, quand il intercède pour le peuple. Il est prêt à être effacé de la terre. Parce qu'il ne veut pas voir le peuple périr. Vous voyez, c'est l'amour qui conduit à ça. Ce n'est pas de la négation. Hein, c'est la souffrance d'un prophète totalement donné dans sa mission. Et c'est le drame de la parole. Donc le prophète, ce n'est pas celui qui transmet la parole avec des pincettes ou avec une méthode un peu lointaine. Non, c'est celui qui est totalement engagé. À la fin du livre, hein, il y a une image qui est très parlante, qui parle par elle-même. À la fin du livre, il y a un événement qui va comme résumer la mission du prophète. À la fin du livre, on le voit écrire un document qui annonce les malheurs qui doivent survenir à Babylone. Voilà, voilà ce qui va se passer à Babylone. Ce n'est pas les malheurs pour Juda, pour Jérusalem, c'est les malheurs pour Babylone. C'est-à-dire que quand il dit qu'il faut accepter de se soumettre à Babylone, Babylone aussi aura aura sa raclée. Hein, donc, voilà. Il attache le livre à une pierre et il le jette dans l'Euphrate. En fait, pas lui, un autre personnage, mais ça c'est secondaire. Hein, Isaïe 51. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. On en avait parlé. Hein, les actions prophétiques, c'est très spécifique. Hein, c'est on l'avait vu avec le mariage d'Osée, on va le voir avec le prophète qui porte un joug, le prophète qui Isaïe qui se promène nu pour annoncer la déportation et l'esclavage, etc. Une action prophétique. Voilà. Cette action prophétique du message du sort de Babylone attaché à une pierre et jeté dans l'eau a une double signification, deux significations qui s'emboîtent l'une dans l'autre. D'abord, le fait que le caillou, enfin que le texte est jeté dans l'eau, c'est, la parole n'a pas été accueillie. Voilà, c'est une sorte d'échec de la parole du prophète. Mais aussi, puisque la parole n'a pas été accueillie, ce sera la chute de Babylone. Et ça, hein, c'est, la pierre annonce ce qui va se passer pour la ville. Elle est tombée, Babylone la Grande. Hein, elle est tombée, Babylone. Hein. Le plouf de ce caillou, moi, il m'impressionne beaucoup. Hein, je me dis, à la fin, il n'y a plus que cet envoyé de Jérémie qui va entendre quelque chose de la parole du prophète, puisque personne n'a été capable de l'écouter. Hein. Et pourtant, ça a été écrit. Et personne ne pourra revenir en arrière. Hein. C'est une annonce irrévocable. Voilà. Alors, troisième partie, l'oracle de la Nouvelle Alliance. J'ai insisté dessus, vous l'avez compris, Jérémie est porteur d'une promesse qui ne se réalisera que par un chemin de conversion, chemin de l'écoute de la vérité. L'espérance se trouve du côté de Jérémie et non pas du côté de ceux qui annoncent une paix facile sans appel à se convertir, les faux prophètes. Les mensonges sont plaisants, mais ce sont des mensonges. Jérémie, lui, nomme le mal afin de le déraciner. Je n'ai pas, dans cette séance, je n'ai pas parlé de la vocation de Jérémie, mais c'est un texte aussi qui est tout à fait capital. La vocation de Jérémie. Plusieurs textes capitaux. Il y a la vocation de Jérémie, il y a les confessions, il y a... Voilà. Et là, il était dit que Jérémie aurait à déraciner. Il aurait à arracher. Arracher le mensonge qui est dans le cœur de l'homme. Le mal, c'est quoi? C'est le péché. C'est-à-dire l'homme qui désobéit à Dieu, qui se détourne de Dieu. Et Jérémie a des phrases très très fortes au chapitre 17. Le péché est gravé sur la tablette du cœur de l'homme. Katav en hébreu. En arabe, on dit mektoub. C'est écrit katav, katav en hébreu, écrire. Mais j'ai pris le mot gravé parce que gravé avec un stylet de fer. Donc c'est gravé dans un stylet de fer, c'est dans la pierre, quoi. C'est une parole irrévocable. Seul Dieu qui scrute les reins et les cœurs, qui scrute les cœurs et sonde les reins, on est toujours dans la religion du cœur, comme je disais tout à l'heure, seul Dieu peut donner à l'homme un cœur totalement neuf. D'où le péché sera effacé. C'est d'ailleurs le passage où il est écrit que le péché d'Israël est écrit dans la terre également. Souvenez quand Jésus écrit sur le sol, on se demande ce qu'il écrit. Je crois que la clé, c'est le chapitre 17. Leur péché est écrit sur le sol. Parenthèse. Voilà, donc vous voyez, le péché est gravé avec un stylet de fer sur la tablette du cœur de l'homme. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, pour graver avec un stylet de fer, c'est que le cœur de l'homme est vraiment très dur. Il y a un oracle, alors, pour le coup, fait partie des oracles très importants, et selon la tradition chrétienne, est l'oracle le plus important. Jérémie nous dit quelle est la perspective de sa pensée. Dieu viendra graver, katav, pareil, il viendra graver sa loi dans le cœur. Pour la tradition chrétienne, ce passage est capital, on l'a dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 pour annoncer la nouvelle alliance. Je le lis parce que ce passage est tellement important que je le cite in extenso. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai établie avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. C'est un texte absolument magnifique. Je vous rappelle, puisqu'on a vu oser la dernière fois, que connaître le Seigneur, dans le langage prophétique, connaître, ça veut dire aussi aimer. Oser, vous vous souvenez, il disait quel est le péché? Il n'y a plus de connaissance du Seigneur. Pour recréer l'amour, il faut qu'il y ait la connaissance. Voilà. Quand Dieu a établi Israël, avec Israël l'alliance dans le désert, il a donné une loi par l'intermédiaire de Moïse, une loi gravée sur les tables de pierre. Katav, gravée sur les tables de pierre. Israël a eu connaissance de la loi pour la mettre en pratique et pour rester fidèle à l'alliance. Mais en arrivant en terre promise, on a vu ça avec Élie et Osée, Israël a été infidèle. Donc la loi gravée sur la pierre n'a pas été gravée dans le cœur. Ce qui a été gravé dans le cœur, c'est le péché. Eh bien, Dieu lui-même va donner une nouvelle loi où il dit qu'il va l'écrire dans le cœur. La loi sera écrite dans le cœur. Non pas comme la première. La première était gravée à l'extérieur. Là, la loi deviendra intérieure. C'est l'annonce de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement un appel à se convertir. C'est Dieu donnera le moyen de pratiquer la loi, si la loi est écrite dans le cœur. La loi écrite dans le cœur, ça veut dire que vous aurez la force de l'accomplir. Le cœur de l'homme sera totalement renouvelé. Chacun en aura une connaissance intérieure, sera capable de l'accomplir. Et c'est déjà une annonce de la loi de la grâce. D'ailleurs, Ézéchiel, qui met ses pas dans ceux de Jérémie, et qui va montrer que cette action, ce sera l'action de l'Esprit Saint, « Je verserai sur vous une eau pure, hein, de, je vous purifierai de vos péchés, je vous donnerai un cœur nouveau, hein, je mettrai en vous un esprit nouveau, je chasserai de vous le cœur de pierre sur lequel le péché est gravé. » Je retirerai le et je vous donnerai un cœur de chair. Et alors, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous obéirez à mes commandements. Vous voyez, il faut lire Ézéchiel 36 en même temps que Jérémie. Jérémie 31, c'est une annonce tout à fait forte après la dénonciation du péché gravé dans le cœur de l'homme, la loi gravée dans le cœur de l'homme, et c'est Ézéchiel qui nous révèle qu'en fait, c'est l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Et combien le Nouveau Testament, ce qui se passe dans le Nouveau Testament, c'est « Ah, l'Ancien, ils se sont plantés, c'était la loi de Moïse, c'était extérieur, c'était pas bon, c'était les Juifs, on tourne la page. » Et enfin, avec le Nouveau Testament, il y a l'Esprit Saint et c'est la nouveauté. Faux, archi faux. Il y a chez les prophètes une annonce. Maintenant, il faut que ça s'accomplisse et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. D'ailleurs, Pierre va rappeler tout ça au moment de la Pentecôte. Et là, ils eurent le cœur. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils disent, que nous faut-il faire ? Recevez le baptême. Voilà. Beauchamp résume bien en disant, la loi et la grâce, un jour, se rejoindront. La loi et la grâce, un jour, se rejoindront. Voilà. Je conclue, les souffrances et la persévérance de Jérémie, en réalité, sont un message. Je vous ai dit, le message, ce n'est pas simplement les mots de Jérémie, c'est sa personne. Il va jusqu'au bout. Ses souffrances et sa persévérance nous disent quel est le prix que le Seigneur accorde au salut de son peuple. On a déjà du Ézéchiel. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le prophète se révèle comme bien autre chose qu'un transmetteur d'oracle. Il porte en son âme et en sa chair le drame du salut qu'il doit annoncer. En cela, Jérémie et après lui, le serviteur souffrant d'Isaïe, qui en reprend de nombreux traits, prépare la voie au Christ. Dans la continuité, vous avez vraiment Moïse, Jérémie et le serviteur souffrant. Voilà. Alors, il est 22h02:30, donc on a fait moins d'une heure. Voilà. Les autres ne sont pas encore là pour les complis. Il y a la place pour une question. Ou deux. Oui ? Terre. Eretz.
Quand je vous écoute, est-ce qu'il n'y a pas une analogie,
oui,
entre la pierre sur laquelle Dieu grave sa loi parce qu'elle est tellement extérieure à l'homme,
oui,
qu'il faut la mettre sur un support qui vous arrive
pas. Durable, toute l'idée du durable, tout à fait.
Qui va être la terre promise, qui va être la terre vivante où le peuple peut s'établir, et le cœur sur lequel le Christ va agir, qui est sauvé et qui peut à nouveau écouter la loi.
Alors le thème, la lecture spirituelle de la terre est tout à fait présent dans les Écritures, mais en tout cas c'est une piste de travail absolument magnifique et qui mérite d'être suivie. C'est quand même rare qu'il soit dit qu'il ait écrit quelque chose dans la terre. Alors est-ce que c'est dans la poussière ? Il faudrait regarder le texte hébreu, ça j'avoue que je n'ai pas en tête, est-ce que c'est Eretz ou est-ce que c'est Afar ou est-ce que c'est... ça je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a un lien entre la pierre et le cœur de l'homme, il y a sûrement quelque chose à dire sur la terre. Oui, oui, très bien vu. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais je pense qu'il y a quelque chose de fécond. C'est une recherche à poursuivre.
Ceux qui ont aidé les Juifs à dissimuler les Juifs pendant la persécution, les nazis,
oui,
ils appellent aussi les justes, non ?
Alors, les juifs, le terme de juste, ça a été un décret, je crois, en 66 à Jérusalem, on décrète qu'on donnera le titre de juste à ceux qui ont protégé les juifs pendant la guerre. Et de fait, ça a la même signification pour nous qu'une sorte de canonisation. Voilà. Moyennant quoi, certains ont dit, ont reproché aux juifs de dire comme ça, vous vous permettez de porter un jugement sur des gens qui ne sont pas juifs. Du côté des chrétiens, nous, on ne canonise que des chrétiens pour montrer qu'on se donne le droit de juger ce qui se passe chez les chrétiens. On ne dit rien sur les autres. Mais je pense que c'est un mauvais procès, parce que justement le juif, le peuple juif a conscience d'être un peuple sacerdotal qui intercède pour l'humanité, pour les païens, donc les chrétiens font partie des païens, il y a des juifs qui reconnaissent quand même qu'on a des liens très profonds avec eux, mais au contraire, de leur part, c'est la reconnaissance que il y a que Dieu agit aussi chez les païens et que qu'il y a une vraie justice. Donc de leur part, il y a quelque chose. Ça a été discuté le terme, l'attribution du terme de juste. Hein, ça a été pas très bien compris par certains. Moi, je trouve ça quand même plutôt très positif qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui ont souffert. Là, on a fait des découvertes encore. L'évêque, j'ai vu ça récemment. Quelqu'un m'a envoyé ça. L'évêque de Florence qui a accueilli des quantités de juifs avant une rafle, et il y a tous les couvents de religieuses qui ont caché des juifs comme ça. Séminaire français à Rome, où ils avaient 40 séminaristes. Brusquement, ils se sont retrouvés avec 80 séminaristes qui sont arrivés comme ça, des vocations, des gars avec des soutanes et tout, qui en réalité s'appelaient David, Abraham, etc., et à qui on a donné des noms chrétiens et qui ont traversé la guerre. Ça, on s'en est rendu compte récemment. Hein, séminaire français à Rome, qui a abrité des juifs. Donc, ils ont le titre de juste. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne lecture de Jérémie, et la prochaine fois...